Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Ce que je fais, c'est tellement tout le temps dans la spontanéité que là, je suis à court de spontanéité. Par exemple, tu vois, il y a deux jours, j'ai fait une interview avec une tatoueuse qui, pendant qu'elle m'interviewait, me tatouait. Et à la fin, on nous a dit « Vous voulez pas être un peu plus spontané ?» Ou rajouter un truc, je sais pas. Et j'étais là, mais en fait, c'est pas du tout le truc qu'il faut dire pour être spontané, quoi.
Bah oui.
Et c'est comme quand tu dis, voilà, faut que je crée un texte.
Faudrait que t'arrêtes de stresser.
Ouais, c'est ça. Bah, tu vas créer un texte de merde, ouais. Tu vas être encore plus stressé, tu vas pas du tout être spontané. Donc, ouais, non, moi, ce que je fais là, l'écriture, c'est tellement tout le temps spontané que. Je suis à court là, je suis vidée.
Exécuté par qui ? Fabrice Florent.
Bonjour, bonsoir, bon après-midi à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Histoire de succès. Chaque jeudi, à partir de 6h du matin, je retrace avec une ou un invité son parcours de vie qui l'a amené à son succès depuis la petite enfance jusqu'à aujourd'hui. Je suis Fabrice Florent, dans la vie je fais des podcasts d'interviews et de discussions et je crée des contenus. Si vous aimez ce podcast d'ailleurs, allez écouter la bande-annonce pour en découvrir plus sur moi et sur mes autres podcasts. N'oubliez pas de vous abonner sur votre appli de podcast préféré, de mettre un cool commentaire et 5 étoiles au podcast sur Apple Podcasts par exemple, et de partager cet épisode autour de vous s'il vous a plu, c'est le meilleur moyen de m'aider si vous aimez mon travail. Un grand merci à vous et bonne écoute. C'est la première fois que tu fais un podcast.
Non, j'en ai déjà fait, mais je pense qu'ils n'avaient pas l'attirail comme ça.
Ah oui, c'est un délire hein, de s'entendre.
Mais grave, j'adore.
T'as jamais entendu ta voix ?
Comme ça là ?
Ouais.
Non.
En direct ?
Non.
Alors il faut que tu fasses gaffe, il faut que tu mettes bien le...
Ok.
Si tu tournes la tête face à moi, il faut juste que tu tournes le micro avec toi.
Okay.
Est-ce que tu dis ton prénom déjà ?
On commence
là ? Sur Insta, ouais.
Ok.
C'est commencé, mais tu sais, je suis YOLO hein, moi.
Oui, je dis mon prénom, ouais.
Parce que j'ai cherché, j'ai pas trop trouvé, tu vois, je me disais, ok, peut-être que c'est...
Je le dis pas tout le temps, je l'ai mis dans quelques textes.
Ok.
Faut être malin, faut chercher si on veut vraiment le trouver. Et il faut surtout, je pense, me suivre depuis le début, quoi.
Ok. Est-ce que ça te va si on donne ton prénom là ou alors...
Bien sûr, allons-y.
Délicate.
Non, pas du tout. L'autre jour, je suis allée au concert de Ben Mazuet.
Ouais.
Et du coup, je suis arrivée et j'ai dit, j'ai une invitation pour la délicatesse. Et je me suis dit, non, c'est plus possible, faut pas faire ça. On va dire Sarah.
Sarah. Bonjour Sarah.
Bonjour.
Les gens l'auront vu parce que tu sais, je l'aurais mis dans le titre.
Ok.
Donc déjà, spoil un peu le début, mais bon, c'est pas grave.
D'accord.
Merci beaucoup de venir raconter ton histoire de succès, dans l'histoire de succès, dans ce podcast fabuleux.
merci à toi de me recevoir.
Alors Sarah, pour les gens qui te connaissent pas, t'es la personne qui est derrière ce compte Instagram qui est de la poésie en fait, c'est ça ?
Oui, c'est ça, c'est des pensées, il y a un peu de tout, il y a des longs... En fait, je fais un peu comme je veux.
Okay.
Donc parfois, on va dire que je joue avec la langue et je fais selon mes envies, donc ça peut être très court, ça peut être très long, ça peut être poétique, ça peut être plus cru, je m'amuse.
Ok, donc ce compte qui s'appelle La Délicatesse des mots que tu as lancé il y a bientôt 4 ans, c'est ça ?
Il y a 3 ans, ouais. Bientôt 4, ouais. C'était en fin 2018, je crois.
J'ai trouvé juin 2018,
ouais.
Mais peut-être...
Bon, ça fait 4 ans.
Oui, ça fait 4 ans.
On va dire que ça fait vraiment 3 ans parce que j'ai pas trop écrit au début.
Okay.
C'était plus, allez, j'y vais pas. Et je suis vraiment allée il y a 3 ans, quoi.
Ok, tu vas nous expliquer un petit peu comment t'en es arrivé à... Et notamment dans cette période de j'y vais pas.
Oui.
Et en fait, t'as réussi à faire un truc, c'est que t'as quasiment 300 000 abonnés aujourd'hui avec juste des textes.
Oui.
Ce qui est un truc normalement sur Insta et sur Instagram où généralement ce qui marche le mieux, c'est les visuels, quoi.
Oui, c'est ça. Ouais.
Et toi, t'as décidé de mettre juste des textes.
Ouais, juste des textes. Et je sais pas trop. On dira soit c'est le talent, soit c'est... moi, je dis que c'est un mélange de tout parce qu'il y a plein de gens qui ont, avec beaucoup d'abonnés qui m'ont riposté au début alors que j'étais à 250 ou 300 abonnés. Et je ne sais pas d'ailleurs comment ils sont tombés sur mon compte. Et ils m'ont vachement encouragée, en fait. Et donc, ouais, on va dire que c'est un... J'aime pas dire que c'est de la chance parce que j'ai bossé.
Ouais.
Donc, un mélange d'une bonne étoile, des gens qui m'ont aidée et, allez, un peu de talent, un peu de taf derrière quand même, quoi.
C'est le talent et le taf, c'est pas la même chose.
Oui, moi, je pense que plus on travaille, plus on est talentueux.
Ok.
Donc, je fonctionne comme ça. Je pense pas que quand j'étais petite, j'écrivais comme ça, j'ai bossé pour écrire comme ça. Donc, ça se rejoint quand même. Pour
Mais tu
moi.
Sais, il y a des. Tu vois tout de suite chez certains enfants qu'ils ont plus ou moins la plume facile, etc. quoi. Ça, pour moi, c'est le talent, mais en fait, t'as aussi.
Ah, tu parles de quelque chose d'inné.
Ouais, enfin, oui.
Moi, mon grand-père écrivait beaucoup.
Okay.
Et mon père lisait et lit toujours beaucoup. Du coup, on a été habitués, mon petit frère et moi, à beaucoup, beaucoup lire. Et à grandir, à baigner dans un univers hyper littéraire, avec un grand-père, du coup, hyper impressionnant, qui sait très très bien manier la plume. Du coup, c'est vrai que peut-être qu'il y a un petit truc qui fait que ça m'a aidée.
Il faisait quoi dans la vie ?
Mon grand-père, ouais. Il était ingénieur.
Ok. Donc rien
dans
à voir
le bâtiment.
Avec... Rien non, à voir avec les
pas
lettres.
Pas du tout.
Okay.
Et en fait, parallèlement, il était écrivain et peintre. Il a sorti 3 bouquins et il peignait énormément. Il était fasciné par les femmes. Donc voilà, vraiment deux côtés quoi. L'ambivalence du Verseau. C'est un Verseau.
Ah oui.
Il est sorti comme ça. Eh ouais.
T'es à fond sur l'astrologie.
En fait, ma meilleure pote est à fond là-dedans et du coup, c'est vrai que je commence à avoir des choses cohérentes entre les signes quoi. Mais bon, faut pas non plus se reposer complètement sur ça. Mais...
Oui, il y a toujours un effet
mais,
de Barnum.
Je trouve ça marrant. Enfin, moi, par exemple, je suis Gémeaux et c'est complètement cohérent avec ce que je suis aujourd'hui.
Ok.
Voilà.
Tu trouves que t'as mis beaucoup de Gémeaux dans la délicatesse des mots ?
Ah oui, oui.
Je t'avoue que je
schizophrénique.
Ok, je connais pas du tout la signification des signes et tout, mais j'imagine Gémeaux derrière Gémeaux, il y a un peu.
Bah, Gémeaux, c'est le double
Jekyll.
Visage.
Ouais.
C'est les deux masques. Donc, c'est versatile, c'est-à-dire qu'on peut être très heureux à 10h du matin et se mettre à pleurer sans aucune raison à midi, et sans le comprendre soi-même. Et c'est vrai que je suis un peu comme ça, et c'est ça qui guide mes écrits.
Ok.
Donc, on s'ennuie pas, quoi. Je ne m'ennuie pas avec moi-même.
tu sais, la première question que je pose, tu as commencé à y répondre, mais à quoi tu ressembles, à quoi tu ressemblais quand tu avais 7-8 ans ?
Quand j'avais 7-8 ans, j'étais à la fois, encore une fois, très versatile, parce que j'étais à la fois très introvertie, dans le sens où j'étais sage à la maison, les professeurs m'aimaient bien, je disais oui à tout, j'étais la meilleure copine de tout le monde, et à côté de ça, j'adorais être sous le feu des projecteurs. Je m'en souviens, dès qu'il y avait un jeu à la télé qui passait sur Canal J, je voulais absolument y aller pour être sur le plateau télé. D'ailleurs, je sais pas ce que j'avais à l'époque. J'avais aussi une étoile parce que j'avais été prise pour le Monde Scoop et j'étais passée à la télé. Je sais pas si tu te rappelles de cette émission.
Non, pas du tout.
Non, mais alors, c'est vraiment à chaque fois, mère
déjà,
disait...
Déjà, je crois que je suis plus vieux que toi, donc j'ai pas forcément
okay,
toutes les mêmes refs, tu vois.
C'était, donc quand j'avais 8 ans, donc c'était en quelle année? On est en 2022.
T'as quel âge?
Je vais avoir 28 ans dans un mois.
Ah oui, t'es un pipou. Ok, donc c'était 2000, c'était début
ouais,
2000.
Ouais, ouais.
Ouais, début 2000, frère, ouais. J'étais déjà dans le monde des adultes.
Ouais. et moi, du coup, j'étais vachement attirée par ça. J'en avais peur et en même temps, j'étais attirée.
Ok.
À l'école, j'étais un peu la fille qui aimait organiser des chorégraphies après la cantine. J'aimais bien être la fille que tout le monde aime, qui fait rire, qui organise des trucs.
Sur du Lori, j'imagine, ou pas ?
Évidemment, bien sur sûr. Du Lori. Mmh. Évidemment. Pas du Nolwenn Leroy, du Lori.
Calmons-nous.
Calmons-nous. Et ouais, j'adorais ça. Et en même temps, j'avais ce côté hyper... presque timide. C'est très, très ambivalent. Mais voilà. Et du coup, j'étais vraiment comme ça, quoi. Et j'avais un truc hyper artistique déjà, dans le sens où... j'aimais passer des heures toute seule. Je préférais jouer toute seule pour m'inventer des histoires. Je pense que la plupart des enfants aimaient bien avoir un monde imaginaire.
Oui, plus ou moins développé. Donc tu veux dire que tu étais plutôt du genre une fausse extravertie, c'est ça ?
Ouais,
hyper sociable et en même temps avec un vrai besoin de...
Exactement.
De te recharger des batteries dans ta caverne.
Mais ce qui n'a pas trop changé finalement, d'ailleurs. Je me rends compte.
Ok.
Je suis un peu restée fidèle à moi-même finalement.
Ce qui est vachement bien.
Ouais.
En devenant adulte.
Mais on a du mal à suivre les personnages comme moi, je pense aussi, parce que...
Tu veux dire en tant qu'adulte ?
Non, même quand j'étais petite, je pense que c'est un caractère de quelqu'un qui est sympa avec tout le monde, qui aime les gens, qui aime un peu briller, mais derrière, un truc hyper timide, quoi. C'est vrai que je pense que c'est difficile à suivre pour mes proches.
Ok. Même pour tes proches ?
Ouais.
Ok.
Enfin, ils me connaissent, mais c'est vrai que c'est...
Est-ce que tu organises encore des chorégraphies en fin de soirée ?
Alors non.
C'est bien triste.
J'organise des teufs, c'est pas pareil, pour qu'on danse. Et en fait, j'adore mettre en lien les gens que j'aime.
Okay.
Donc, j'adore organiser des grosses fêtes pour que tout le monde se rencontre et que dans 10 ans, on soit encore tous potes et qu'on danse et qu'on fasse encore la fête à Paris. Enfin, chorégraphie restait, mais dans ce sens-là. Quoi.
Est-ce que tu fais ça pour être un peu au centre de ton petit monde ou il y a un côté un peu...
Non, même
égotique
pas.
Derrière tout ça ou...
J'aime bien que les gens s'aiment.
Ok.
Et s'entendent bien. Déjà, ça facilite les choses. J'aime bien voir se créer des choses autour de moi. Et ce n'est pas être au centre du monde parce que finalement, j'apprécie aussi beaucoup quand ces gens-là se voient entre eux sans moi. Enfin...
Oui, t'es pas en mode comment ça ?
Non,
vous voyez ça ?
Pas du tout. Mais alors, pas du tout. Je suis pas du tout possessive.
Mmh. Okay.
Alors, vraiment pas, quoi. Voilà.
Ce qui est vachement sain quand même, parce que si tu fais rencontrer des amis entre eux, des amis que t'as en commun et qui finissent par se voir, effectivement, si t'es plutôt en mode...
Ah mais il y en a qui sont comme ça, je pourrais pas.
Eh bien, si vous êtes comme ça, n'hésitez pas à changer et à aller voir un thérapeute ou une thérapeute d'une manière ou d'une autre qui pourra vous aider.
Mais tellement.
Parce que...
mais vraiment, moi quand on me fait une crise, mais ne serait-ce que 2 secondes, la crise commence par rapport à de la possessivité me concernant. C'est... En fait, non. Non, tu arrêtes tout de suite. Je ne t'appartiens pas. Les liens de la famille, c'est pas pareil que les liens d'amitié. Donc, à tout moment, tu t'aiges. Donc, tu te calmes tout de suite, en fait. Mais vraiment, je suis catégorique là-dessus, quoi.
Ok. Tu mets plutôt la famille avant l'amitié ?
Non, pas du tout. Enfin, pas du tout. C'est pas pareil. Mais disons que pour moi, l'amour dans la famille, il est inconditionnel. Mais vraiment inconditionnel, c'est-à-dire que mon frère demain fait une connerie, et je l'aimerai toute ma vie, vis-à-vis de moi, je veux dire. une amie, c'est différent. C'est moi qui l'ai choisi, c'est pas la vie. C'est moi qui l'ai choisi, et donc du coup, c'est un amour conditionnel, c'est-à-dire que si tu fais de la merde, tu ne fais pas, malheureusement pas partie de ma famille. C'est ciao, quoi.
Ok. Non, je comprends.
Après, je suis pas rancunière, donc c'est arrivé que ça se passe et que ça s'arrange derrière. Donc...
Le temps fait...
Exactement.
Fait parfois son affaire.
C'est ça.
Mais je pensais à ça aussi, parce que c'est parfois dangereux de mettre en contact des gens qui viennent de groupes opposés.
Oui, alors oui. D'ailleurs, je l'ai vu dernièrement.
J'ai expérimenté.
Exactement. Oui. C'est la vie, hein. Ça marche pas, ça matche pas toujours, hein. Mais oui, c'est un peu, ça peut être dangereux, mais en même temps ça peut être intéressant, le mix de deux mondes différents, de deux façons de penser différentes. Donc c'est un risque que j'aime bien prendre, quoi.
Ok. Ça m'intéresse, on va en reparler. Comment se passe ton adolescence? Comment se passe le collège, par exemple?
Alors le collège se passe pas très bien. Déjà, moi, je suis ultra développée physiquement tôt, très très tôt. Je commence à avoir ma poitrine à 9 ans, mes règles à 9 ans, mes boutons à 9 ans, enfin vraiment tout.
9 ans, t'es quoi ? CM1, CM2, quoi ?
Ah ouais, c'est CM1, ouais. Ouais, c'est CM1. Et puis surtout, donc je sais pas du tout si c'est lié, je sais pas si c'est lié au psy. Mais alors, pour revenir un peu en arrière... Moi, j'ai grandi dans un milieu ultra féminin et sexuel, avec un grand-père qui peignait beaucoup de femmes à poil et qui laissait traîner ses magazines de femmes à poil un peu borderline partout dans la maison. Ce qui fait que j'ai connu le désir sexuel très jeune, beaucoup trop jeune. Je devais avoir 4 ans, tu vois, quand j'ai vu une femme se toucher dans un magazine. Alors, je ne sais pas si c'est lié, encore une fois, mais en tout cas, c'est vrai que j'ai été très, très développée dès l'âge de 9 ans, physiquement. Voilà, et du coup, j'avais une image de la femme un peu spéciale, quoi. Je rentre vraiment au collège en me disant que la femme est sensuelle, que la femme doit être belle, que la femme... Enfin, je connais plein de choses que d'autres ne connaissent pas encore à cet âge-là. Du coup, c'est vrai que je suis très provocatrice parce que je me dis, moi, je sais que la femme, elle est comme ça, pas vous, et c'est comme ça qu'il faut se comporter. Voilà, donc, ouais, on va dire que le collège, de toute façon, c'est pas la meilleure période en règle générale, ni pour les filles, ni pour les garçons. C'est méchant à cet âge-là. C'est les âges où on se moque parce que le corps change. On n'est pas très intelligent à cet âge-là, quoi. On n'a pas trop de recul sur la vie. Donc c'est vrai que moi, je l'ai très mal vécu. Après, j'ai connu pire. Hein. J'ai vu franchement des copines à moi qui en ont vraiment chié. Je ne minimise pas ce qui m'est arrivé, mais aujourd'hui, je préfère le faire. Enfin, je préfère en tout cas me dire qu'il y a eu plus grave, parce que c'est vrai que j'ai vécu des trucs un peu dégueux, quoi, un peu salauds. Bon, on était jeunes, hein, mais... Et voilà, c'était pas facile, le collège.
Un peu dégueu, un peu salaud au collège, tu veux dire?
Ouais, ouais. Ok. Ouais, j'ai une anecdote... Bon, j'étais jeune, hein, mais en gros, j'étais folle, amoureuse d'un garçon très beau, que même les troisièmes adoraient et trouvaient magnifique, quoi. C'était vraiment le beau garçon, Hugo.
Et toi, t'étais en sixième, c'est
ça? Moi, j'étais en sixième. Okay. On est tombés tous les deux amoureux, mais bon, lui, il tombait amoureux de toutes les filles. Et puis, comme pas pour moi, le sexe, on me l'avait pas trop expliqué et qu'on m'avait un peu foutu là-dedans avant l'heure, je pensais que pour être une femme, il fallait faire le sexe, quoi. Et donc, du coup, bref, donc je c'est mon premier bisou avec la langue, c'était Hugo. En cinquième, on est encore sortis ensemble. En quatrième, on est encore sortis ensemble. L'histoire a duré un peu longtemps. Et puis, en quatrième, je décide de lui dire, écoute, il faut absolument qu'on fasse les préliminaires, quoi. Et du coup, ben, c'est parti en préliminaire. Le problème, c'est quoi? C'est qu'au collège, ça parle. Et du coup, bah, je me suis clairement pris... le revers de la médaille, quoi. Pendant un mois et demi, je suis pas retournée au collège. J'étais une pute, j'étais une salope. J'étais sale. Si j'avais le malheur de prendre le bus pour aller au collège, je me faisais vraiment dénigrer. Enfin, c'était vraiment l'enfer. Mes parents ne le savaient pas. Je n'ai rien dit parce que j'avais honte. Et un jour, je l'ai dit à ma mère. Je me suis pris une grosse tarte dans la gueule. Elle l'a pas du tout compris.
Et Attends, ta mère t'a mis une tarte dans la gueule,
ouais,
c'est ça?
Okay. Ouais, elle m'a dit, mais quoi? Mais pourquoi t'as fait ça? Évidemment qu'à cet âge-là, ils sont bêtes. Oui, mais bon.
C'est mon âge aussi, je veux dire.
Ouais, et voilà, et du coup, bon, j'ai quand même fini par retourner à l'école.
Et donc, pendant un mois et demi, t'as séché, séché les cours sans que tes parents le sachent?
Non, ils ne le savaient pas. Ils ne le savaient pas. Mes copines venaient me voir. Je pleurais dans le lit de mes parents, en fait. J'étais vraiment mal, quoi.
Ah oui, tes parents bossaient, c'est ça?
Mes parents bossaient.
Toi, t'étais chez toi, de ce fait-là.
Et ouais, je pleurais. Okay. J'étais triste, en fait. J'étais super triste. Puis moi, j'y voyais rien. Enfin, j'ai fini par y voir du mal. Et alors qu'à l'origine, j'y voyais pas du mal. Enfin, en plus, ce garçon-là, je l'aimais vraiment du premier vrai amour de jeunesse, quoi. Mm. Et donc pour moi, c'était normal, c'était la continuité en quatrième à 14 ans de faire ça. Depuis qu'on j'étais en sixième, c'était mon seul amour, je pensais qu'à lui. Mais bon, voilà, ça s'est pas très bien passé, quoi.
Et en même temps, jouer à touche pipi en quatrième, tu vois, là où les hormones sont à fond,
oui,
et tout, c'est
mais
pas
moi,
complètement déconnant.
Je pense qu'en plus, plein de filles l'avaient fait, ça se savait. Mais moi, j'étais un peu la target. J'étais la fille qui avait les gros seins, j'étais la fille qui avait eu les poils avant, que les garçons aimaient. Voilà, il fallait taper sur quelqu'un, quoi.
Ok. Et t'as la sensation que ça a un peu défini ton rapport au sexe par la suite et au rapport amoureux d'une manière générale,
ou... Ouais, bah à l'enfance.
À l'enfance.
Surtout, c'est l'enfance qui a créé tout ça. c'est l'enfance qui a créé tout ça. Et ouais, mais de toute façon, je pense que tout est généralement très lié à l'enfance.
T'as bossé là-dessus parce qu'on sent que la meuf a taffé, quoi. Tu
ouais,
vois, on sent
ouais.
qu'on est en thérapie.
Ah, mais bien sûr. Ah, mais bien sûr. Bah, il faut se comprendre. Déjà, là, en écrivant mon bouquin, même les psys ne m'avaient pas dit ce que je suis en train de comprendre à propos de moi. Et c'est dingue. Mais vraiment dingue, quoi. Du coup, tous les jours, quand j'écris, je découvre des choses à propos de moi-même assez hallucinantes. Des souvenirs, des flashbacks de l'enfance, quoi.
J'invite tous les gens à écrire, d'une manière générale, dans,
ah,
leur,
c'est la meilleure
dans
thérapie.
Un petit carnet, etc.
C'est la meilleure
juste
thérapie.
Pour votre pomme. Parce que là, tu le fais, toi, pour un... Tu le fais pour un public, quoi. Et on va en reparler un peu après, mais t'es sur un projet de bouquin
oui.
sur lequel t'es en train de raconter ton histoire. Et c'est vrai que... c'est pas la même démarche que de le faire juste pour sa pomme, quoi. Mais,
ouais.
Mais bon, j'invite les gens à le faire. C'est vraiment un super truc.
Ouais, ouais, ouais. Franchement, je suis d'accord. Je suis d'accord. Je pense que, déjà, je pense que tout le monde, s'il n'a pas l'envie d'écrire, devrait aller voir quelqu'un pour discuter, déjà. On n'est pas obligé d'avoir un problème pour aller voir un psy. Malheureusement, il y a trop de gens qui pensent que, quand on dit va voir quelqu'un, c'est parce qu'il faut absolument être aidé parce qu'il y a un problème. Ouais. Alors que pas du tout. Déjà, on a tous des problèmes. Déjà, on a tous des blessures d'enfance. Même si elles se manifestent pas de la même façon, il y en a, c'est hyper et ultra violent. Et bah, c'est important d'aller parler à quelqu'un d'hyper extérieur, quoi. Ça fait du bien. Enfin, puis on se sent puissant à la fin, on s'est compris quand on sort d'une séance de psy, je trouve.
Ok. Tu commences quand alors la thérapie ? Après ça, ça t'a...
J'ai commencé à voir un psy, je crois, quand j'avais 10 ans. Ouais, à peu près, okay. À peu près vers cet âge-là. Donc, quand j'ai vu mon corps changer et quand j'ai vu que mon rapport à la femme, au sexe et mes rapports avec ma mère, tout ça était un peu brouillon et problématique pour que je puisse grandir normalement. Donc, okay. Mes parents m'ont encouragée d'aller voir un psy. Et puis, ils ont bien fait. Hein. Ils ont bien fait.
Bah, globalement, c'est toujours le meilleur truc qu'on puisse conseiller
ouais.
à ses enfants. Hein.
Ouais.
Bon, faut avant tout accepter que toi-même, tu peux pas régler tous les problèmes de tes mômes, mais c'est un chemin. Quoi.
Puis, plus tu y vas tôt, plus tu acceptes l'idée que c'est normal d'aller voir un psy, je pense.
Oui, clairement.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Ok, donc tu sors de là, quatrième, ton collège est quand même une expérience pas très cool.
Ah, il est mouvementé.
On peut le définir.
Après, j'ai
bof.
Vécu des belles choses, hein, mais ouais. Franchement, le collège, assez mouvementé. Est-ce... Je trouve que les jeunes, on l'insulte facile.
Ouais, globalement, mais c'est parce qu'on leur... Je crois que si on apprenait un peu... une forme d'empathie et d'écoute de l'autre et de arrêter de projeter sur les autres toutes les conneries qu'on a en soi,
ouais.
Si tu veux, déjà, ça aiderait vachement l'humanité.
Bah, franchement, ouais. Ah ouais, moi, je le vois, ma petite cousine de 13 ans, la pauvre, quoi. Mm. Elle s'en prend plein la gueule.
Ah ouais. Mm. Est-ce que tu profites du lycée comme plein de gens pour changer d'établissement et te racheter une nouvelle, et te recréer d'ailleurs, même pas racheter, mais juste te recréer une nouvelle personnalité ?
Alors, eh bien, comment dire ?
Bif bof apparemment.
disons que le lycée ça a été pire. Le lycée, je me suis fait virer 3 fois de 3 lycées différents. Parce que ma préoccupation première, c'était les copains, la fête, faire des conneries, hein, clairement. J'avais envie d'aller en boîte, j'avais envie de connaître le monde, et pour moi, c'était pas au lycée que j'allais apprendre ça, quoi. Donc, je me suis fait virer.
Tu venais d'une famille aisée, c'est ça ?
Mmh.
Ok.
Ouais.
Donc, on est sur une forme de.
Ouais.
D'exploration par rapport à un chemin potentiellement tout tracé,
ouais.
C'est ça ?
Ouais, ouais, ouais.
Okay.
Donc, les pauvres, mes parents. Ouais, donc je me suis fait virer du premier au bout de 6 mois. Ensuite, ils m'ont mis dans un institut catholique. Alors là, ça s'est pas bien passé du tout. Je me suis virée. Ils m'ont remis dans le premier qui a bien accepté, qui ont bien voulu m'accepter une deuxième fois. Encore une fois, ça n'a pas fonctionné. Ils m'ont remis à l'institut catholique là en question, qui là où là je suis restée. Bah là, j'ai validé ma première, je crois. Non, j'ai pu passer en L. Je voulais aller en L et eux, ben, ça s'est bien passé. Je me suis dit, allez, Sarah, là, faut y aller. Marre du lycée, en fait. Faut partir du lycée, là. Et.
T'avais redoublé et tout entre temps, c'est ça?
Ouais, ou... j'avais redoublé la seconde. Je faisais okay. Que des conneries. J'allais jamais en cours. Enfin, bref.
Est-ce que c'était une bonne idée de te mettre dans un institut catho ultra, j'imagine, encore plus autoritaire alors que t'étais toi-même en mode rébellion et...
Non, mais je pense que mes parents, comme tous les parents, pensaient bien faire et ont fait les choses à l'envers. Et je pense qu'ils s'en rendent compte aujourd'hui. Hein, c'était pas du tout ce qu'il fallait faire, quoi. Mais bon, au moins j'ai validé.
Qu'est-ce qu'ils auraient dû faire, tu crois ?
Déjà, ils auraient dû me dire « Pourquoi tu fais ça ?»
Ils t'ont pas...
Non, okay. En fait...
Alors qu'en plus, c'était chez une psy depuis genre 5-6 ans, quoi.
Ouais, mais je pense qu'en fait, mes parents agissaient mal parce qu'ils avaient très peur de ce que j'étais capable de faire. Donc, ils préféraient serrer le verrou que de discuter. Du coup, c'est vrai que dès que je faisais des conneries, au lieu de me demander pourquoi je faisais ces conneries-là et les dangers qu'il y avait derrière, ils avaient plus tendance à me punir et à être très durs. Parce que dans l'incompréhension et dans la peur, en fait. Vraiment dans la peur, quoi. Bah, c'est vrai que je faisais vraiment des grosses conneries, donc je comprends. Moi, je sais pas comment j'agirais avec une gosse comme que j'ai été, hein, très honnêtement.
Ok. À partir de quand tu disais que tu voulais faire L, c'est ça?
Ouais.
Derrière l'idée de elle, il y a toujours cette idée d'écriture, tu continues à écrire et tout ou...
Ouais, en fait non, j'étais simplement, je savais que c'était là où j'étais bonne, parce okay. Que tous les profs depuis que j'étais petite me disaient que j'écrivais bien, et puis je savais surtout que j'étais très mauvaise en mathématiques, donc il était hors de question que j'aie même une matière de mathématiques,
okay.
Donc c'est vrai que ouais, je voulais vraiment aller en L. Parce que je savais que j'allais m'éclater déjà et que j'allais être bonne. Et j'avais besoin aussi un peu de reconnaissance et qu'on me dise « Bon, t'es faite pour l'école. Hein. On a déconné depuis le début. Tout le corps enseignant te fait un gros mea culpa. » Et d'ailleurs, c'est ce qui s'est passé récemment. Là. Donc, ouais, moi, je voulais vraiment...
Comment ça, c'est ce qui se passe récemment ?
Bah, les profs me détestaient. Les profs ne croyaient pas en mon potentiel. Donc c'est vrai que là, aujourd'hui, quand les professeurs voient que j'ai créé la délicatesse des mots et que ça fonctionne, j'ai eu des retours assez cool de professeurs.
Tu leur as envoyé ? Mais comment les profs
non, ils
ont
sont
su
tombés,
que c'était toi ?
Ils sont tombés sur mon compte, je sais pas, on a dû leur dire ou par hasard.
Ok.
Et puis voilà quoi, c'est marrant. Ça fait plaisir, ça fait plus... Enfin, une fois, j'ai...
T'as reçu des messages de profs, tu veux dire ?
Ouais.
Waouh.
Ouais.
Ok.
Ouais, j'ai même mon père qui est aussi dans l'enseignement, qui du coup connaît mes profs de lettres.
Ok.
Qui m'a dit que les profs lui avaient dit, voilà, j'ai appris que ta fille faisait ça, tu lui diras que c'est génial, qu'on est fiers d'elle, je sais pas quoi.
Ça fait du bien. Enfin, en tout cas, j'imagine que ça fait du bien
oui.
à ta petite toi de 15-16 ans, quoi.
Ça m'a fait plus plaisir que si Rihanna s'était abonnée à moi, quoi. Mais vraiment,
vraiment.
Je t'assure que okay. Ça m'a vraiment fait beaucoup, beaucoup de bien. Vraiment plaisir.
Ok. Mm. Comment tu décides de... Parce que t'as d'abord fait lettres, c'est ça ?
Oui, alors
t'as
du coup, j'ai fait des études de lettres. Enfin non, en fait, après avoir validé le bac, avec mention, alors là, c'était vraiment là... J'étais mis... Ah ouais, je suis pas bonne, moi. Je suis pas bonne, les profs, là. J'étais tellement fière. Que j'ai pensé qu'il fallait, en fait, aller dans la communication.
Okay.
Donc, j'ai fait une école de publicité, donc l'ESP, dans le 16e. J'y suis restée 6 mois. J'ai refait une Sarah du lycée. Mon père était ravi, hein, parce que c'est lui qui, évidemment, avait payé. Encore plus ravi quand je lui ai dit que je voulais aller à la fac, où c'est gratuit. Il m'a dit, tu pouvais pas faire dans l'autre sens. Donc je suis allée à la fac.
Est-ce que t'avais besoin de faire casquer le daron un peu?
Non, parce que mon père, c'est vraiment l'amour de ma vie.
Ok.
Je peux pas lui faire payer quoi que ce soit. Il a été génial. Qu'est-ce qu'il y a?
Non, mais je... Ok. Ton père, c'est l'amour de ta vie.
Oh, c'est l'amour de ma vie. C'est l'homme de ma vie. Ouais, c'est mon meilleur ami.
Tu sais que je fais un podcast qui s'appelle Histoire de Daron, donc je fais parler des pères, donc ça forcément ça me fait tiquer quoi, tu vois.
Lui c'est le meilleur.
Ok.
Ouais, vraiment. Ouais.
Mais t'es une grande fille maintenant, enfin j'imagine que t'as rencontré d'autres mecs qui peuvent être à la hauteur de ton daron.
Non.
Ok, toujours pas, très bien.
Toujours pas, non.
Je vous souhaite bon courage les gars.
Ouais, j'ai vraiment un père qui au-delà d'être un père extraordinaire est un homme extraordinaire que tout le monde adore et admire beaucoup et. Enfin, il est génial, quoi.
Ok.
Vraiment génial. Beau parcours, lui aussi, d'ailleurs.
D'ingénieur, donc, c'est ça?
Non, ça, pardon. C'est mon grand-père.
Ça, c'est ton grand-père, oui.
Mon père, lui, a grandi dans une famille ouvrière, donc sans argent, et il a très vite eu envie de partir de ça. Avec ses cheveux à la Beatles, là, il s'est barré, il a dit, vas-y, c'est bon, je pars, je vais à la fac. Et puis, il a fait plein d'études différentes, il est devenu prof de plein de choses différentes, droit, constit, management. Et aujourd'hui, il est directeur d'une école d'ingé. À côté, il est resté prof parce que c'est quand même sa passion. Et il est vice-président du campus dans lequel j'étais, où il y a l'école des ponts, où il y a la fac. Voilà. Et il est toujours directeur aussi de cette école. Et lui, il vient de loin.
Transfuge de classe, comment on dit.
Ouais.
D'accord. Ok. Donc le papa est donc l'homme de ta vie, très bien, j'ai noté. On en reparlera peut-être un peu plus tard. Non, parce que c'est génial, parce que tu parles d'amour, tu vois, tu parles de tes relations, tu parles de plein de choses. Et j'avais pas capté, tu vois, que en filigrane, il y avait quand même le papa, il est au top du top.
Okay. Ouais. C'est pour ça que ça explique plein de choses. Mais il y a rien d'Oedipe, hein.
Oh non,
bah... je pense qu'on est tous un peu dans le syndrome d'Oedipe quand ça se passe bien avec le père, j'entends. Mais moi, pour le coup, c'est vraiment au-delà de ça, c'est puissant. C'est vraiment puissant, quoi. Il y a rien de malsain. C'est super puissant.
Hein. Ok. Trop cool. Je ne juge pas. Tu sais, moi, je ne juge personne. C'est juste, je tilte et je fais tiens, dis donc, c'est intéressant. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Donc ouais, tu te lances. Donc tu finis par aller en études de lettres. C'est
ouais,
ça.
Je pars en lettres ou je m'éclate. Mais clairement, en plus à ce moment-là, j'emménage seule dans une chambre de bonne dans le 16e à Passy. Donc je connais les joies, enfin, les joies d'habiter seule, de faire ce que je veux. Et donc, ouais, je pars en lettres et ça se passe super bien. L'adrénaline, le challenge de faire des dissertations de 15 pages trois fois par semaine. De s'entraîner à la diction, de prendre la parole pour la réflexion des textes. Enfin, c'est vraiment, je m'amuse, mais je m'amuse à tel point que ça m'a rendu triste de partir des lettres, quoi. J'ai adoré, c'était mes plus belles années, je crois. Même au niveau des relations à ce moment-là humaines, je me suis fait des amis incroyables que j'ai gardés. Je suis sortie avec un garçon avec qui ça a duré 2 ans, c'était une très belle histoire. C'était ma première vraie histoire saine. Vraiment, top. Mes années de lettres, j'en garderai toujours un très bon souvenir, je pense.
Qu'est-ce que tu fais alors après? T'es passé par Sciences Po aussi, j'ai vu.
Ouais,
ça
alors non, en fait, j'ai fait un master Sciences Po qui n'est pas à Sciences Po.
Okay.
C'est dans la même fac. C'est un cursus qui décide d'ouvrir, en fait, je crois, l'année d'avant où où je suis passée là-bas, avec des profs qui viennent donc bien de Sciences Po. Et l'aspect, c'est métier du politique.
Okay.
Parce qu'en fait, moi, je pars dans l'idée que, ok, maintenant, je sais écrire. Ok, maintenant, je sais m'exprimer. Maintenant, il me faut de la culture G. Parce qu'il faut que je sois une meuf béton pour bosser dans un milieu hyper... hyper intellectuel. Dans ma tête, je veux être dans un truc hyper intellectuel.
Okay.
Sans savoir exactement quoi. Mais je sais que...
T'as en tête de devenir, je sais pas, la plume d'un homme politique ou un
exactement,
truc comme ça?
Ouais, okay. En fait, c'est un peu l'idée, ouais.
Okay.
Donc voilà, le master se passe pas très bien, finalement, parce qu'il est pas très en place, ce master-là. J'ai ouï dire que récemment... Maintenant, c'était un master assez reconnu où, en fait, leur programme était beaucoup plus carré, disons. Mais c'est vrai qu'à l'époque, c'était pas trop le cas, même si les profs étaient
créé,
géniaux.
C'est ça
Ils venaient d'être créés, voilà. Ouais. Et puis, on avait vraiment des super profs, même d'anciens... d'anciens adjoints de députés qui venaient pour nous donner des cours. Enfin, vraiment, on avait un super corps, quoi. Mais je me suis pas éclatée comme en lettres. Je me suis pas éclatée comme en lettres. À la fin, il fallait faire un stage de fin d'études que j'ai fait dans l'édition. Donc vraiment, c'est un fuck. Ça ne m'a pas plu. Je vais dans l'édition.
Ok.
Qui s'est pas non plus très bien passé parce que du coup, bah, ni la politique me plaisait visiblement, ni le monde de l'édition. Et là, je sors de ce truc et je me dis merde, bah, je sais pas ce que je veux faire en fait là. Je tombe par hasard à une soirée chez un pote à moi qui a plein de boîtes dans Paris. Et à chaque fois que je vois ce mec, il se passe des délires. Je me dis mais comment c'est possible quoi? Il me fait rencontrer une nana sublimissime. Je vois arriver une fille, c'est une créature de je ne sais où qui débarque, grande, fine, sublime, coupe afro, qui s'appelle Sam. Et elle me dit ah mais c'est toi la délicatesse des mots. J'adore ce que tu fais. Elle me dit écoute moi, je lui dis que je cherche du travail. On se met à discuter pendant une demi-heure dans la cuisine. Et elle me dit, écoute, moi, je travaille dans la politique, en fait. Je suis à l'Assemblée nationale, je m'occupais avant de Taubira, là, je suis là, dans tel cabinet. Est-ce que tu veux venir? Est-ce que tu veux tenter, en fait? Toi qui voulais être plume politique, bah viens, tu vois. Et donc j'y vais. Enfin, elle me fait rencontrer plein de personnes à l'Assemblée nationale. Je ne sais pas comment, mais... ce n'est même pas grâce à elle, des députés commencent à s'abonner à moi sur la délicatesse des mots, je les rencontre, machin, bref. Et puis...
Attends, mais parce que t'as passé un cap là, mais t'es déjà en train de faire la délicatesse des mots à l'époque.
En fait, j'ai créé la délicatesse des mots juste avant que je rentre en master.
Okay.
L'été qui a précédé ma rentrée en sciences.
Bon. D'accord. On reparlera un peu après, parce que ça m'intéresse de savoir un peu le cheminement que t'as fait, quoi. Mais donc, pardon, c'est juste pour... Je tilte sur le moment en me disant, mais t'as raté un truc. Mais donc là, t'es déjà en plein dans la...
Là, je suis déjà en plein dans la délicatesse des mots.
Et ce compte Insta t'ouvre des portes, déjà, pour commencer.
Ouais, okay. Ouais, déjà. Et du coup...
T'as combien d'abonnés à l'époque?
Je dois avoir... je réfléchis.
10 000 abos, 15 000 abos, 20 000 abos.
Je dirais 50 000.
50 000 déjà.
Peut-être,
un
peu moins, je sais pas.
Okay. Déjà sur un compte qui a déjà des gens, quoi.
Ouais, ouais. Ça va. et voilà. Et du coup, bon, elle m'a ballotté un peu à droite à gauche pour que je rencontre toutes ces personnes-là et que je m'en fasse une idée. Entretien, etc. Et un matin, je me réveille et je vois sur Instagram un article. Un gros titre qui m'envoie un signe, c'est l'univers qui me parle. Et en fait, c'est un gros titre qui dit « La plume politique de Macron, anciennement élève en lettres modernes et master Sciences Po, fait un burn-out total, je sais pas quoi, bref. » Et là, je me vois, en fait. Je me dis « Ok, je ne vais pas y aller. Je ne vais vraiment pas y aller, c'est un signe. » En plus elle a totalement mon profil, je pense qu'elle a été attirée comme moi par le l'engouement, le truc quoi, et en fait burn-out ça veut tout dire quoi. Et une semaine après je la délicatesse des mots, j'en faisais vraiment mon métier en fait.
Waouh.
Ouais.
OK.
Ouais. Ouais, désolé, j'ai tout enchaîné là.
Ah non, c'est bien, c'est pourquoi tu t'excuses. C'est juste à...
Non, parce que je sais pas si ça... Les liens sont bons.
Les liens sont très bons, en fait. Je vois exactement le truc et c'est cool que tu t'expliques un peu le... Comment dire? Comment t'es allé au bout de l'histoire. Moi, ce que je me demandais, en fait, avant ça, c'est comment t'en es venu à créer ce compte? Parce qu'en fait, entre...
Ah oui.
Ok, j'écris des trucs depuis que je suis toute petite, dans un carnet, etc. Je vais créer un compte où je vais venir mettre... À l'époque, c'était plutôt de la poésie, d'ailleurs. Hein. Il y avait... Oh non, quoi.
Alors,
il y avait aussi des textes,
ça rimait plus, probablement, mais c'était surtout de la critique.
Ok.
Ouais, c'était surtout de la critique. de beaucoup plus longs textes où en fait j'aimais beaucoup observer le caractère des gens, leur attitude et les décrire quoi. Sous forme de petites punchlines mais très poétiques, okay. Comme tu dis.
Ok. Donc ouais, comment t'en es venu à créer ce compte à l'époque ?
Alors j'étais à Cannes. En vacances.
J'allais dire, est-ce que tu y étais pendant le festival ?
Alors, absolument pas. J'y étais vraiment en vacances. Donc, la meuf décide de partir en vacances à Cannes.
C'est un mood.
Oui. Et donc, je me retrouve au Baoli. Et j'entends, c'est une boîte de nuit un peu guindée. Enfin, une des boîtes de nuit de Cannes où il faut absolument aller.
Non, faut pas absolument y aller. Mais si.
Enfin,
c'est The Place to
quand,
be, c'est ça que
voilà,
tu veux dire.
Voilà, voilà. Moi, tu vois, je dis ça, mais bon, tu vas voir la suite de l'histoire.
Okay.
Et du coup, cet été-là, je ne sais pas si les précédents étés, c'était la même chose, mais il y avait beaucoup de Saoudiens. Et donc, je me retrouve avec mes potes et juste à côté, j'ai toujours l'oreille qui traîne. Et j'entends un Saoudien dire à une petite nénette, mais qui a genre mon âge, quoi. Qui lui dit, écoute, j'ai un yacht, si tu veux, tu peux venir demain... avec tes copines, je sais pas quoi, nanana. Mais tu sais, le mec, il fait flipper quoi. Enfin, il faisait vraiment flipper pour le coup. Et elle accepte. Tout de suite.
C'est l'appel du yacht quoi.
Ouais, elle accepte tout de suite. Et là, je me dis, non, mais personne en fait, encore sur Insta, ne fait d'écrit un peu critique par rapport aux stéréotypes comme ça. Il faut en parler quoi. Du coup, j'écris ce texte, mais dans la foulée. Et. Moi, j'avais déjà créé la délicatesse des mots 3 semaines auparavant, en Auvergne, dans ma maison de vacances. Mais j'avais écrit quelques petits trucs pour m'amuser, quoi, un peu poétique, comme ça. Et là, je me dis, non, mais c'est qu'en fait, c'est ça, la délicatesse des mots. Il faut que ce soit cette tournure-là. En fait, il faut que ce soit un putain de paradoxe, la délicatesse des mots. Ou, en fait, c'est pas du tout la délicatesse des mots. C'est de la critique. Il faut que ça bam, quoi, que ça résonne. Ouais. Et donc, j'écris ce texte, je le publie. Et il marche super bien. Il y a plein de gens qui me disent « Putain, c'est vrai !» et tout. Dedans, je parle de coke, je parle de la facilité d'accepter des trucs qui brillent. Enfin, je dis tout ça, quoi. Et je me dis « Ok, on va partir sur cette dynamique, en fait. » C'est très bien, parce que moi, en plus, je m'éclate, quoi.
C'est à l'époque, déjà, que tu te définis comme une bouba délicate.
Ouais, alors...
Ça vient de cette époque-là, déjà.
Ouais, en fait... Je crois que j'ai mis « Je suis une bouba délicate » peut-être 3 semaines après que j'ai créé le compte.
Okay.
Et donc, au moment où j'ai écrit ce fameux texte, où je me suis dit « Faut absolument que je parte dans cette dynamique où je fais des trucs un peu punchy, poétiques, critiques, mais pas trop, observateurs. Bouba délicate. »
Bouba délicate.
Bouba délicate.
Ok, donc ça commence à grandir, etc. Donc, t'as ce fameux truc quelques semaines plus tard, c'est ça qui vient avec le burn-out de la plume de Macron, où tu te dis « No, il ne faut pas faire ça
». Ça s'est passé, je sais, j'ai pas trop l'espace-temps en tête, là.
Oui, bon, c'est pas grave, mais en tout cas, ça arrive peu de temps après, c'est ça. Et pendant cette période de transition-là, t'as un peu le cul entre deux chaises à te dire...
Mais il y a eu le Covid. Et surtout qu'il y a eu le Covid, en fait, au
c'est
moment...
C'est pas venu plus tard, le Covid ?
Enfin, tu parles du moment où j'ai commencé à monétiser et à dire « je vais bosser sur la délicatesse des mots pour gagner ma vie avec ça » ou tu parles du moment où j'ai créé la délicatesse des mots ?
Non, où tu te dis « tiens, en fait, ça peut être un vrai truc et ça va être mon boulot, quoi. »
Ah, alors, moi, je me suis dit ça au moment où, pendant le Covid, je ne trouvais pas de travail et que la SAM en question m'a emmenée vers la politique et que je me suis rendu compte que...
Ah ok, c'était pendant le Covid ça.
Ouais, okay. En fait ça a explosé pendant le Covid la délicatesse des mots.
Donc ça faisait 1 an et quelques que le compte était créé mais que tu savais pas trop où t'allais avec, c'est
exactement ça,
ça. Ok.
Je m'amusais sans voir tout le potentiel derrière en
c'est
fait.
C'est ça, t'y voyais pas forcément non. Un truc qui pourrait te permettre un jour d'en faire ton métier quoi.
Non, pas du tout.
Ok. Comment ça vient en fait en dehors de ce... Enfin j'imagine qu'en fait cette news là par rapport à cette meuf qui fait un burn-out, c'est le déclic, mais j'imagine qu'avant il y a eu plein de petites graines qui ont été plantées.
Oui.
C'est quoi ?
Bah, je pense déjà que mon père essayait encore une fois de m'aider mais pas de la bonne manière en m'envoyant voir des gens qui possiblement à ce moment-là aurait pu m'aiguiller pour un possible métier, dans des entretiens qui foirent, j'ai même l'impression de les foirer intentionnellement, enfin, et en fait, toutes les personnes, mon pauvre père, mais toutes les personnes vers qui il m'envoie, sont des personnes qui me disent « Mais pourquoi tu ne fais pas de ta passion ton métier, en fait ?» Puis des personnes qui en envoient, hein, qui me disent « Mais je comprends pas pourquoi ton père, il pensait que j'allais te dire quoi, là ?» et moi, à chaque fois, je rappelle mon père en sortant de tous ces rendez-vous en disant « Putain, elle m'a dit que c'était ça qu'il fallait que je fasse, il faut que je le fasse !» Et il est désespéré, putain, j'envoie ma fille vers ces personnes-là pour qu'elle la guide vers un métier bah, qui correspond au master, etc. Et en fait... Bah, encore une fois, rongé par la peur, mon père. Quoi.
Ton père avait peur que tu
Très
fasses
peur.
Un métier de
ouais.
saltimbanque, entre guillemets.
Exact.
Quoi,
en fait, lui ne voyait pas du tout le potentiel parce que bah, déjà, il n'est pas très génération Instagram. Au-delà de ça, lui, il a quand même évolué dans un truc hyper carré, dans un milieu hyper carré, l'enseignement supérieur. Donc voilà, il ne comprenait pas. Il ne comprenait pas pourquoi j'allais pas déjà vers un métier... conventionnel, pourquoi je me faisais pas embaucher et pourquoi tout le monde me disait mais pourquoi t'en fais pas quelque chose de la délicatesse des mots.
Pour être clair, ton grand-père artiste dont tu
ouais,
parlais,
ouais.
c'était ton grand-père maternel.
Maternel, ouais.
Okay, c'est
du
ça.
Côté,
donc,
bah, ma mère, ma mère, elle m'a toujours dit j'aurais dû te mettre dans une école de comédie
parlé,
musicale.
Pas parler de ta mère.
Oui, alors ma mère, ma mère. Ouais, ma mère.
Elle fait quoi comme métier?
Ma mère, elle. Je l'aime, hein. Je l'aime d'amour. Mais ma mère, elle, alors, elle a été dans la banque.
Ok.
Pendant 20 ans, 15 ans. Et puis là, elle est courtier en assurance, ce qui se rejoint un peu. Et elle habite à Bordeaux depuis 2 ans.
D'accord. Et c'est elle qui. C'était plutôt elle qui t'aurait poussé vers une...
Ma mère est très, très, très... c'est l'art, vraiment. Okay. C'est... Et en fait, elle s'en est toujours voulu de ne pas être allée dans l'art et d'avoir fait des choses parce que, justement, elle a rencontré mon père à l'âge de 18 ans. Et mon père, bah, qui est, bah, comme je te l'ai dit, très carré et je pense peureux de la misère, finalement, qu'il a connue quand il était petit...
Ouais.
Eh bien, ma mère, quand elle a connu mon père, elle a préféré, je pense, aller vers cette direction
ouais.
au lieu de devenir ce qu'elle voulait devenir, quoi. Ce qu'elle aurait voulu.
Explorer une vie d'artiste
ouais, ouais,
potentielle.
Exactement.
Quoi.
Donc, okay. ma mère me soutient à 1000% concernant tous mes projets artistiques et elle a décelé ça en moi, même quand j'étais toute petite. Elle voulait m'inscrire à The Voice à 15 ans. Elle est géniale pour ça, franchement. Ouais, elle, pour le coup, elle m'encourage énormément.
Tu chantes depuis longtemps parce que je t'ai vu
ouais,
chanter dans
chante,
un...
Ouais.
Alors, tu l'as mis dans un poste ou deux. Enfin, je
oui.
t'ai pas vu dans beaucoup de postes, mais tu chantes.
Oui, je chante. Bah, ma mère elle, chante de l'opéra depuis que je suis dans son ventre. Enfin, elle a commencé à chanter quand j'étais dans son ventre.
Ta mère est une chanteuse d'opéra qui fait du...
Ouais,
qui est courtier en assurance.
Ouais.
Ok. Non, mais je sais pas si tu connais ce bouquin qui s'appelle Libérez votre créativité de Julia Cameron.
Non.
Donc je vous mettrai les liens pour les gens qui écoutent. Mais c'est, j'en ai déjà parlé plusieurs fois dans le podcast, mais en gros, c'est une meuf qui a développé une méthode en 12 semaines pour libérer ce qu'elle appelle l'artiste fantôme qu'on a en chacun de nous et qu'on a quand on est gamin et qu'en fait l'âge adulte vient piétiner d'une manière ou d'une autre ou que les adultes viennent piétiner d'une manière ou d'une autre. Donc ça me fait un peu penser à ça, quoi.
Ouais, bah écoute, c'est ça.
Ok. Ok, ok, donc t'as Daronne qui, elle, cherche à te pousser à fond, ton père qui lui a peur par rapport à... au métier de troubadour et de saltimbanque vers lequel t'es en train d'aller petit à petit.
C'est ça.
Et comment ça se passe alors le moment où tu te dis ok bah let's go, j'ai envie de ce compte là qui existe, je vais y mettre ma
là je vais
ma
faire
force.
Une grosse dédicace
ouais.
parce que en gros je suis dans mon café préféré rue Montorgueil au César avec mes 3 meilleurs potes et ma copine Camille. Elle est très masculine. Elle a pas sa langue dans sa poche. Et même si parfois ça peut froisser, c'est nécessaire. Et donc, elle me regarde et elle commence à me dire, toi frère, je comprends pas ce que tu fous avec ton compte là, tu pourrais te péter de thunes, c'est n'importe quoi.
T'as combien d'abonnés à l'époque?
Je crois que j'ai peut-être 100 000 abonnés.
Donc t'es déjà à 100 000 abonnés alors que t'as fait ça pour rire, quoi.
Ouais.
Ok.
C'est ça. Pas pour rire, mais ouais, pour me faire du bien. Et
pour avoir
m'amuser.
100 000 abonnés, faut taffer quand même. Hein. Faut poster tous les jours, etc. Quoi, tu vois. Ok.
Et donc elle me parle très mal. Mais en même temps, je sais que c'est parce que ça l'agace et qu'elle m'aime. Et donc je rentre chez moi un peu vénère, quoi. Mais presque je lui en veux. Hein. J'ai pas du tout apprécié sa façon de me parler. En même temps, j'ai rien dit. Enfin, je lui ai dit gentiment, écoute ta gueule, quoi. T'es bien mignonne, mais. Et le lendemain matin, je me réveille et je lui envoie un message. Je lui dis, écoute, merci pour tout ce que tu m'as dit hier soir. La manière de dire les choses, c'est pas la mienne. Mais en fait, merci de l'avoir dit comme ça. Et ce jour-là, je décide de faire une story en disant que je vends mes textes sous forme d'affiches limitées. Je sais pas, je crois que j'en prends genre 6 ou 7 textes précis qui ont très bien marché. Je décide de les de mettre en story. Voilà, je les signe et je les numérote à la main. 18 exemplaires par texte. Qui est intéressé? Et je les vends, je crois, à ce moment-là, 45 euros, et je propose que des mains propres, que des remises en main propres. Donc en plus, je vais rencontrer mes abonnés. Et ça marche. En 3 heures, je vends toutes mes affiches.
J'allais dire une heure. Je misais sur 1 heure, moi. Mais...
Non, mais c'est du délire.
Ok.
En 3 heures, je vends toutes mes affiches. Les gens sont trop contents. Ils veulent me rencontrer. Ils se rendent compte que l'idée est pas bête parce que ça donne de la valeur au texte et que si eux, ils se disent, ok, si dans 10 ans, la nana, ça devient la Victor Hugo ou je sais pas, qu'elle disparaît, on aura un texte qui a de la valeur parce qu'il est numéroté par l'auteur, parce qu'il est signé par l'auteur et tout. On est sur du pré-NFT à ce moment-là, mais version, tu vois ou pas. Et du coup, ouais, ça marche super bien. Et là, tout le monde me dit, go, on t'aide. Tous mes potes me disent, on t'aide à créer le site internet. On t'aide à déposer ton nom pour la marque. On fait une cagnotte même, si tu veux, si t'as besoin de fonds pour t'aider à lancer. Enfin, vraiment, je suis super bien entourée. Et en 2 mois, le site internet était fait. J'avais déposé mon nom. J'avais fait une cagnotte où mes potes m'avaient donné, je sais plus, 1000 balles. J'avais fait aussi sur Instagram, j'avais eu le courage de le faire parce que pour moi, réclamer de l'argent, même si c'est pour un projet pro et que c'est noble, ça ne se fait pas. Mais je l'ai fait et ça a fonctionné. Et d'ailleurs, je remercie mes petits abonnés qui m'ont bien aidé. Et voilà. Et ça y est, c'est parti, quoi. À ce moment-là, ça part.
Bon, tu sais que j'ai un podcast, je sais pas si tu sais, mais j'ai un podcast sur l'argent qui s'appelle Histoire d'argent.
Ouais.
Où je fais parler les gens de leur rapport à l'argent.
Ok.
Donc je peux pas m'empêcher quand tu me dis, moi, demander de l'argent, c'est compliqué pour moi.
Ah, mais même une clope, hein.
Ah.
Ouais.
De venir te demander qu'est-ce qui fait que tu as du mal à demander de l'argent.
Bonjour, ici le Fab du montage. Je voudrais tout simplement vous dire que comme vous l'entendez, ceci est une question à propos de l'argent que je pose à Sarah. Et comme à chaque fois que se pose une question à propos de l'argent dans mon podcast Histoire de succès ou dans mes autres podcasts d'ailleurs, je la pose à mon invité et ensuite je la mets dans le podcast Histoire d'argent. Donc d'ici quelques jours, vous pourrez retrouver la question, la réponse à cette question de Sarah dans mon podcast Histoire d'argent. Je vous invite d'ailleurs à aller l'écouter, le découvrir et même vous y abonner. Vous retrouverez le lien dans les notes de cet épisode, quoi, tout simplement. Je vous souhaite une bonne fin d'épisode. Salut.
Donc aujourd'hui, tu gagnes ton argent et tu payes tes factures grâce et uniquement grâce à à tes écrits. Que tu vends, t'en as fait un vrai business de ce fait-là.
C'est ça, ouais.
Là, t'es venu avec une enveloppe.
Avec une enveloppe, parce que après j'ai un copain qui a un restaurant qui s'appelle Chez Louisette dans le 14e, qui m'a dit qu'il voulait décorer son restaurant d'affiches, la délicatesse. Okay. Du coup, il va en mettre un peu partout. Donc là, je lui apporte ça.
Trop top.
Mm.
Ok. Et tu continues à, est-ce que tu continues à avoir des abonnés? Parce que j'imagine qu'à un moment donné, tu t'es dit, OK, je vais pas juste faire 16 exemplaires, 18, c'est ça?
Oui.
Exemplaires ultra limités. T'as un peu ouvert le business, quoi.
En fait, pendant le premier confinement, j'ai eu l'idée de créer un concept pour que les personnes célibataires rencontrent l'amour. C'est mon produit préféré parce que ça fait parler les gens et connaître leurs petits secrets. Et surtout, à la clé, bah, c'est l'amour. Et moi, je permets ça, encore une fois, c'est une question de mettre en relation les gens et
alors,
si c'est pour l'amour.
Qu'est-ce que tu fais exactement, concrètement?
En gros, ce qui se passe, c'est que la personne célibataire va sur mon site internet, elle paye la lettre et tout est écrit dessus, j'explique tout. Donc, elle doit m'envoyer un mail. Dans ce mail, elle doit être super transparente quant à elle-même, doit me dire comment elle est physiquement, sans aller dans les grandes lignes, parce que dire que t'es brune et que t'as les yeux bleus, bah plein de filles peuvent le dire, ou plein d'hommes. Donc des petits détails, j'ai un strabisme à l'œil droit, j'aime bien mes fesses, je déteste mes pieds, des trucs comme ça, quoi. Et puis après, tout le côté mental. Et puis les petites habitudes de quotidien. Par exemple, je déteste dormir du côté droit du lit. J'ai un caractère très comme ça. Mon plus beau voyage, ça a été ça parce que j'ai rencontré telle personne qui aujourd'hui fait que... En fait, il faut vraiment... Moi, j'ai donné un exemple pour aiguiller un peu les gens sur Instagram, en story fixe. J'ai mis que j'adorais les Demoiselles de Rochefort, que j'adorais Damso, j'ai mis plein de choses. J'ai dit que je portais tout le temps des Converse, que ma libido était beaucoup plus forte amoureuse. Tous ces trucs-là, en fait. J'ai dit que j'avais la bouche en cœur, que le plat que je préférais faire, c'était... J'avais un grain de beauté sur le menton, c'est reconnaissable ça. J'adorais faire des spaghettis aux gambas flambées à la vodka, au Ricard. Enfin, vraiment des trucs précis, quoi, qui font que t'es unique. Et la personne, quand elle va lire la lettre, donc que du coup j'écris, que je publie sur mon compte Instagram, et que possiblement cette lettre, elle peut attirer 300 000 personnes. Je pense pas que sur les 300 000 personnes, il y ait 300 000 personnes célibataires, mais en tout cas, il y a beaucoup de personnes, je pense, célibataires qui peuvent être attirées par la personne que j'ai décrite. Et c'est ça le but. Et le vrai travail, c'est pas le travail d'écriture. Pourquoi c'est payant? Parce que écrire, moi j'adore. Le vrai travail, c'est que moi derrière, je réponds aux gens qui sont intéressés et je filtre. Par exemple, si Robert de 80 ans qui me suit veut le profil de la fille que je viens de publier et qu'elle a 28 ans, évidemment que je vais pas lui donner. C'est ça mon travail.
T'empêches
en fait.
T'empêches Robert de vivre une plus belle histoire d'amour pour les 5 ans qui lui restent à venir, c'est dégueulasse. Pardon.
Non mais oui, le pauvre. Non.
Mais donc tu fais agence matrimoniale. Putain, j'avais même pas capté ça en fait,
ouais.
Que
en
tu
fait,
faisais ce travail. Pour moi, c'était les gens qui, les gens rentraient en contact. Enfin, tu vois, la personne qui avait publié le truc rentrait en contact avec les commentaires d'une manière ou d'une autre. Mm-hmm. Ok.
Ouais.
Donc tu fais agence matrimoniale.
Ouais, c'est ça.
Ok. Mais pourquoi avoir voulu faire ça? Putain, j'avais pas capté ça.
J'étais sur Tinder et je m'emmerdais un peu. Et surtout, c'était au moment où on a eu un peu peur à propos du Covid, parce que c'était le tout premier confinement. Mmh. Et en fait, quand on commençait à parler, parce qu'on était tous excités, là, on aurait dit des adolescents, parce qu'on savait qu'on pouvait pas
se voir
avant une durée indéterminée à ce moment-là. Moi, je me mets sur Tinder et en fait, je me rends compte que les mecs sont un peu... en mode, flemme de parler parce que, quoi qu'il, je pourrais pas l'avoir avant 3 mois, quoi. Donc, pas d'effort, rien, nul. Et là, je me dis, OK, pas de profondeur, on va créer de la profondeur. OK, c'est parti. Et là, j'ai créé ce concept. Enfin, j'ai fait une annonce sur Insta en story et il y a plein de gens qui ont été hyper chauds. Et là, c'était pas du tout payant, évidemment, à ce moment-là, parce que je ne savais pas ce que j'allais faire de ma vie. Et j'ai reçu peut-être 4000 mails en 2 jours de personnes célibataires, mais qui se décrivaient, par contre, de façon tellement stylée. Mais vraiment tellement stylée. Je lisais des choses. J'étais là, putain, mais les gens sont trop intéressants, quoi, dans leurs petits secrets, dans leur petite vie. Mmh. Et d'ailleurs, je trouve qu'à l'époque, quand c'était pas payant, presque les profils étaient plus intéressants parce que les personnes s'ouvraient beaucoup plus. Je pense qu'elles se disaient « Ok, c'est sûr que je vais pas être prise. » Donc un peu balèque, tu vois, je dis tout ce que j'ai envie de dire à propos de moi. Tandis qu'aujourd'hui, comme elles mettent un prix dans la lettre, elles ont envie que la lettre soit belle. Donc elles se disent pas qu'en fait, un détail comme « je fais des spaghettis aux gambas flambées au Ricard », eh ben c'est ça qui va rendre la lettre
Bien
belle.
Sûr.
Du coup, elles sont beaucoup plus dans le contrôle. Il n'y a pas de lâcher prise. Et donc c'est dû, comme je te disais, « je suis brune, j'aime la mer, moi c'est l'été, et c'est nul, on veut pas ça ». Donc je suis obligée de les relancer,
donc
leur dire,
bah
ouais, je les pousse dans leur retranchement. Et donc c'est ça aussi le travail. C'est pas que de répondre et de filtrer derrière, c'est pas que d'écrire.
En plus.
C'est que putain, je dois les sortir d'eux-mêmes, quoi. Tu vois.
Et ça c'est pas facile. Hein.
Non.
Putain, mais c'est tellement intéressant. Mais en plus, j'allais te dire, c'est génial parce que ça aide à combler un truc que ces putains d'applis ne font pas. C'est juste permettre aux gens déjà de se foutre en vulnérabilité. Je sais pas comment il peut y avoir une culture autour d'une appli pour venir dire en fait frère lâche tout parce que tu trouveras pas l'amour en te cachant.
Oui.
Ça n'arrive pas.
Mm-mm.
Et surtout comme Tinder là je crois que t'as vraiment genre 500 mots. Peut-être j'exagère. Non, si c'est
je
ça.
Je sais pas. Mais de toute façon, ils se foulent pas trop sur les descriptions sur Tinder.
Mais parce qu'en fait, je crois qu'il y a aussi une culture derrière qui fait que si t'as envie de raconter un peu des trucs, assez rapidement, tu te retrouves bloqué parce que tu peux pas écrire très long, quoi.
Ouais.
Tu vois. Donc tu finis par matcher les gens en rapport avec leur physique.
Mais de toute façon, je pense que comme le but, c'est surtout de montrer son mood physique, etc., les gens pensent, peut-être à tort, que s'ils mettent un texte trop long, et ça va, comme c'est la génération du zap et que le concept c'est aussi d'aller le plus vite possible à droite ou à gauche, et ils se disent que si le texte est trop long, je sais pas, hein, moi je, et ça va pas attirer l'attention de la personne. Donc on a même tendance, je pense, à faire tout l'inverse et à mettre une petite phrase qui tique. Moi je m'en souviens, ma phrase c'était My daddy said I'm a good girl. Donc ça fait et provoque et je suis pas du tout une good girl, les gars, vous l'avez bien capté. Et fille à papa, donc et je trouvais que ça c'était bien quoi de dire ça parce que j'avais capté que si on mettait un truc trop long, et le mec ça allait peut-être le saouler quoi. Mais je sais pas. Hein.
Bon. Ce qui en dit déjà long aussi sur lui, c'est-à-dire que s'il a la flemme de lire un truc de plus de 3 phrases, c'est aussi une bonne façon de filtrer, je trouve.
Oui. Bien sûr. Déjà s'il est torse nu, c'est mort.
Apparemment les mecs mettent tous des photos.
Mais oui.
Torse poil.
Mais il faut arrêter de faire ça.
Ça suffit. Dans des salles de bain, des selfies, dans
oui,
des salles de bain.
Mais même en maillot de bain. Enfin, je comprends pas. Comment, c'est quoi, on découvre quoi? Il est où le. Je comprends pas, le Kinder surprise là. Non, mais c'est vrai.
Le Kinder surprise.
Non, mais. Merde. Moi, je veux découvrir quand je te déshabille si t'as des poils ou pas. Je veux pas le voir en photo, quoi. C'est nul.
C'est intéressant. Mm. Tu vois là?
Non, je suis myope.
T'es vrai?
Très bien.
Alors je vais te lire le truc, parce que tout à l'heure, tu l'as mentionné. Ça y est, je le sens, j'ai envie à nouveau. Je vois les jours qui se pointent. J'ai un cadre dans mon salon, c'est pas du tout radiophonique.
Attends, mais
bien.
Comment, c'est toi qui l'as fait faire?
Non, c'est Kian Kojandi qui, a, dans sa boutique, à un moment donné, a fait faire des affiches de Ben qui sont signées, tu vois.
Ouais.
Pourquoi tu l'as mentionné tout à l'heure et tu l'as mentionné en disant Ben?
Parce que on se discute. Alors on se discute. on se parle depuis un an sur les réseaux.
Ok.
Voilà, comme ça, ça s'est fait assez naturellement parce qu'il est tombé sur la délicatesse, que je me suis abonnée en retour et que voilà, on s'entend super bien. D'ailleurs, je devais le voir le week-end dernier, je ne l'ai pas vu. Il est super sympa. Il est super sympa, ce mec. Tu l'as rencontré, j'ai vu que tu avais fait un podcast avec lui.
On a fait 2-3 trucs ensemble.
Ok.
Depuis un petit bail.
Ok. Écoute, adorable ce mec. Adorable, en tout cas sur les réseaux, parce que je ne l'ai pas vu en vrai.
Je ne l'ai pas encore rencontré.
Mais en tout cas, hyper. Alors, il adore dire qu'il est très égocentrique et très porté sur lui. Mais je le trouve particulièrement. Oui, mais alors lui, alors il adore le dire. Hein. Et pour autant, je trouve qu'à l'inverse, il est vachement dans le. Il donne beaucoup de lui. C'est-à-dire que il est à l'écoute. Je pense que peut-être que Ouais, il doit forcément aussi, il s'en rend compte. Et puis moi, je le vois bien quand il parle. Il aime beaucoup parler de lui. Et d'ailleurs, comme tu l'as dit, comme tous les artistes, mais je pense qu'il minimise aussi ce côté où il a le don de lui-même. Il est très généreux.
Oui, mais je crois que ça le... Enfin, tu vois, comme plein d'artistes, mais je crois que c'est un peu ta démarche aussi. C'est-à-dire que tu creuses un petit peu qui tu es pour offrir après tes... Comment dire, tes conclusions au monde, et ce qui finit par peut-être faire miroir aussi aux gens qui écoutent ou qui lisent ce que tu fais, quoi.
Oui, c'est sûr.
Donc c'est sûr que, enfin, moi ça me dérange pas d'entendre Ben dire qu'il est égocentrique et qui...
Non, mais c'est presque marrant à un moment donné, parce que vraiment il le dit tellement.
Oui, il en fait running
gag.
Ouais. Mais parce que ta démarche aussi à la base elle est égocentrique.
Mais bien sûr.
Tu parles de toi aussi, tu parles de ton rapport.
C'est ça.
Et c'est pas grave?
Non, pas du tout. Et puis en plus, je me suis rendu compte qu'en me faisant du bien, je faisais du bien aux autres. Donc si c'est dans ce sens-là, c'est plutôt cool, quoi.
Carrément.
Franchement.
C'est quoi tes projets à venir? Donc on a parlé d'un bouquin là.
Ah là là, c'est le bordel, je te le dis pas. Là, franchement, c'est la merde. Hier, j'ai même rencontré deux possibles agents parce que je suis tellement débordée que là, je me suis dit, ok, Sarah, faut arrêter d'être toute seule, là, faut arrêter d'être con. Ouais. Là, tu vois, j'ai ma pote Camille, du coup, qui tourne en boucle dans ma tête. Elle est pas là pour me le dire, mais du coup, j'ai pris les rênes et hier, j'ai rencontré deux potes.
Tu veux dire par rapport, ta pote Camille par rapport à l'argent, c'est ça?
Oui, par rapport à quand je devais lancer la délicatesse des mots. Du coup, ouais, hier, j'ai rencontré deux personnes parce que je m'en sors plus. Donc oui, il y a plein de projets. Alors déjà, là, je vais bosser avec Maison Close, la maison de lingerie, qui me suit depuis un moment et qui voulait bosser avec moi. Nicolas, le fondateur, le créateur, voulait bosser avec moi depuis un moment. Ça y est, les protos sont lancés, donc on va lancer des bodys avec mes textes dessus. Ça va être c'est une marque très élégante et haute à la fois, donc ça colle bien à ce que je fais moi, je trouve, surtout qu'on s'entend bien avec le Nicolas là. Donc voilà, ça c'est un projet pour dans pas longtemps. Le livre, j'ai signé chez Michel Lafon avec Olivier, que tu connais.
Olivier Morera, donc, ouais. qui est éditeur, qui est passé dans l'histoire de mec à deux reprises.
Ouais. Bah écoute, super sympa, je l'adore.
Ah bah oui.
voilà, j'ai signé chez eux pour ce fameux bouquin. À côté, j'écris des chansons en ce moment avec une chanteuse qui est super sympa, que j'adore, qui s'appelle Cynthia. Le but, c'est quand même que je me mette à fond là-dedans. Et puis à côté, j'ai
donc
toujours...
Donc de devenir autrice de texte à ce moment-là, c'est ça?
Ouais, parolière.
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 C'est le terme.
C'est le terme, c'est ça, ouais.
C'est là deux secondes, non, il y a un vrai mot pour ça.
Ouais, ça c'est... Ça, bah, la musique, c'est mon premier amour, donc c'est vrai que ce serait totalement cohérent si ça partait sur ça. À côté, moi je suis plume pour Adopte un mec, donc ça c'est du temps aussi, tous les mois, en espérant que ça évolue, c'est le but. Avec eux, quoi. Là, mais tu vois, j'ai plein de trucs. Là, j'ai une nana qui m'a écrit, ça c'est assez marrant, qui crée un site en Suisse pour les travailleurs du sexe. Et en fait, elle m'a contactée, elle a fait appel à moi parce qu'elle aimerait que j'écrive des choses qui ne déshumanisent pas pour une fois les travailleurs du sexe sur sa page d'accueil. Et je trouve ça très noble.
Ok.
Du coup, j'ai accepté. Je vais faire un truc assez littéraire qui s'adresse à ces gens-là pour les mettre en confiance, du coup, sur le site. Ce sera vraiment la présentation. Enfin, tu vois, il y a plein de trucs à droite, à gauche qui tombent, quoi. Et voilà. Et le but, c'est de mettre la délicatesse des mots un peu partout. Et que ça devienne de plus en plus régulier, quoi.
Et ça va, t'arrives à te ressourcer dans... créativement, je veux dire, dans toute... parce que j'ai l'impression que t'es à droite à gauche, là.
Alors, en ce moment, c'est le bordel.
Les gens ne le savent pas, mais quand t'es arrivé, t'étais au top en termes d'énergie, etc. Ouais.
En ce moment, c'est le bordel. Okay. Franchement, là, je suis partie en Corse pendant une semaine chez le grand-père de ma meilleure copine, et ça m'a fait un bien
pour te ressourcer un peu.
Fou. J'en avais vraiment besoin, parce que j'étais... à la limite, j'étais vraiment déprimée, et à la limite de la dépression, je crois, parce que mine de rien, être écrivain, c'est très fatigant parce que on donne beaucoup de soi et on est tout seul tout le temps. Donc je commençais un peu à tourner en rond dans mes idées qui devenaient noires alors qu'il fait très beau dehors. Ça devenait compliqué.
D'où l'importance de bien s'entourer.
Et oui.
Et oui. Déjà de s'entourer et puis après de bien s'entourer.
Alors ouais. Après, moi j'ai de la chance, je suis particulièrement bien entourée et c'est plus moi qui ai tendance à me renfermer sur moi-même.
Je te parle professionnellement, mais hein, je professionnellement, parle pas forcément en
termes d'amis. Hein. Ouais. Écoute, là c'est pour ça qu'hier j'ai pris la décision de rencontrer ces personnes-là. Et j'espère que ça matchera, hein, parce que là c'est devenu vraiment utile, quoi.
Est-ce qu'il y a d'autres choses sur lesquelles t'aurais aimé venir, sur lesquelles je t'ai pas amené?
Je réfléchis. Je réfléchis, il y a tellement de sujets. Il y a un sujet auquel toi tu t'as pensé quand t'as posé cette question,
non,
ou pas du tout.
C'est, j'aime bien à la fin de mes interviews poser cette question.
Bah écoute, je réfléchis, mais j'ai l'impression que j'ai tellement parlé déjà.
T'as plein parlé de plein
on
de trucs.
On a parlé longtemps,
non? Intéressant. Ouais, mais franchement, j'adore ton mood.
Ok, trop cool, parce que j'étais un peu tendue.
Tendue?
Non, bah comme là, je t'ai dit. Non, mais comme je t'ai dit, j'ai fait grosse crise d'asthme cette nuit, donc oui. Ça me tend. Les nerfs sont tendus. Mais non, je suis.
Non, pour
très
une meuf tendue,
chill,
c'est.
Une...
Oui, ça va.
Ça va, ça va.
J'ai vu pire.
Non, je vois pas ce que je pourrais rajouter d'autre.
On peut s'arrêter là, hein, tu sais, si rien ne te vient.
Ouais, non, rien ne me vient spontané. En fait, il faut, tu sais, je vais te dire un truc. Ce que je fais, c'est tellement tout le temps dans la spontanéité. Que là, je suis à court de spontanéité. Par exemple, tu vois, il y a deux jours, j'ai fait une interview avec une tatoueuse.
Merci beaucoup pour votre écoute. Avant de nous quitter, si vous avez aimé ce podcast et cet épisode, merci de lui mettre un commentaire sur Apple Podcasts et 5 étoiles de préférence. C'est le meilleur moyen de le faire connaître. Vous pouvez faire comme Macha Chose qui a écrit... Comme toujours avec les podcasts de Fab Florent, on a l'impression d'être une petite souris. Les invités sont intéressants, tout comme leur parcours de vie. On rit, on s'interroge, on apprend, et on apprend aussi sur soi. Merci Fab, tes podcasts sont inspirants. Eh ben merci beaucoup, ça fait plaisir. Et si vous voulez faire comme elle, vous vous rendez sur Apple Podcasts et vous cherchez Histoire de succès directement dans votre appli ou sur votre ordinateur. Merci beaucoup à vous et rendez-vous jeudi matin à la même heure, à partir de 6h du matin, dans votre appli de podcast pour un nouvel épisode d'Histoire de succès.
As humans, we're naturally driven by the search for better. But when it comes to hiring, the best way to search for a candidate isn't to search at all. Don't search, match with Indeed. When I was looking to hire someone, it was so slow and overwhelming. I wish I had used Indeed. If you need to hire, you need Indeed. Indeed is your matching and hiring platform, with over 350 million global monthly visitors according to Indeed data, and a matching engine that helps you find quality candidates fast. Ditch the busy work. Use Indeed for scheduling, screening, and messaging so you can connect with candidates faster. And Indeed doesn't just help you hire faster. 93% of employers agree Indeed delivers the highest quality matches compared to other job sites, according to a recent Indeed survey. And listeners of this show will get a $75 sponsored job credit to get your jobs more visibility at Indeed.com/podcast. That's Indeed.com/podcast. Terms and conditions apply.